La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club cet après-midi, les différents sens de ce mot science que nous aimons tant, la guerre des fourmis et nos finalistes du concours, ma thèse en 180 secondes. Je vous présente mes invités, nombreux d'ailleurs, dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bien bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, les tiques, ces mangeuses de sang.
Et seulement de sang, deux chercheurs français démontrent comment une bactérie permet aux tiques de ne manger que ça. On en discute dans un instant avec eux.
Et c'est Étienne Bertin qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier et Hannibal Wachi.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, on va faire un premier tour de table pour saluer nos invités, le géophysicien Jean Lilenstein, le directeur de recherche Franck Courchamp, l'illustrateur Mathieu Guetti, Aline Richard pour The Conversation France et nos deux nouvelles finalistes de ma thèse en 180 secondes, Christelle Quacam et Nadège Enziza. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Bienvenue. Jean Lilenstein, vous publiez chez EDP Science les sens du mot science et c'est une façon, j'ai l'impression, de remettre un petit peu d'ordre autour de ce mot, souvent galvaudé, non ?
Non seulement souvent galvaudé, mais sur lequel il y a beaucoup de confusion qui mène à beaucoup d'erreurs.
Et donc la philosophie va nous aider à y réfléchir.
En tout cas, les philosophes mettent beaucoup, ouais. Oui.
Franck Courchamp et Mathieu Guetti, vous avez travaillé ensemble sur cette bande dessinée consacrée à la guerre des fourmis et vous vous êtes intéressé à des espèces en particulier, Franck Courchamp ?
On s'est intéressé à des espèces envahissantes, plusieurs d'entre elles, et à leur histoire telle que racontée par les scientifiques qui les étudient.
Vous allez nous raconter de quoi il s'agit. Mathieu Guetti, vous êtes beaucoup amusé à illustrer ces fourmis dans tout un tas de situations. C'était votre boulot pour cette bande dessinée ?
Oui, tout à fait. Nous mettre dans des situations un peu originales, avec des fourmis envahissantes qui attaquent d'autres fourmis, donc des mises en scène un peu guerrières.
Absolument.
C'est assez amusant.
Et on va parler de votre travail de dessinateur. Et puis, Christelle Quacam et Nadège Enziza, le grand jour approche, hein, puisque dans deux semaines maintenant, ça y est, on y est presque, le 13 juin, vous serez sur la scène du Théâtre National de Toulouse pour défendre votre thèse en 180 secondes. Christelle Quacam, quel est exactement l'intitulé de votre thèse ?
Alors, l'intitulé de ma thèse, exactement, c'est l'impact de l'exposition prénatale aux pesticides sur les fonctions neurophysiologiques du nouveau-né prématuré.
Voilà, et on va parler beaucoup de caca avec vous, Nadège Enziza. Quel est l'intitulé de votre thèse, de votre côté ?
Alors, ma thèse, le rôle de ma thèse, c'est d'étudier les cellules myéloïdes et les micro-ARN dans l'arthrite juvénile.
On a besoin d'éclaircissements sur ce sujet, donc on va en parler avec vous et on va explorer vos travaux, donc à quelques jours maintenant, de la finale. Voilà pour le sommaire de ce club. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre, vous qui nous écoutez, avec vos messages, toutes vos questions sur ces différents sujets sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Voilà du sang et rien d'autre, les tiques et leur alimentation aujourd'hui à la une de la science avec une équipe française qui démontre cette semaine comment une bactérie a permis aux tiques de devenir ce qu'on appelle des hématophages stricts. C'est une symbiose entre les microbes et l'insecte qui a permis donc à ce dernier de sucer le sang de ses victimes depuis plusieurs millions d'années. Et on en discute avec les deux auteurs de cette publication parue dans la revue Current Biology, Axel.
Oui Mathieu, nous sommes en duplex avec les locaux de France Bleu Hérault pour accueillir Laurence Vial et Olivier Duron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à vous.
Laurence Vial, vous êtes vétérinaire et chercheuse au CIRAD. Et Olivier Duron, vous êtes biologiste et évolutionniste. Vous travaillez pour le CNRS. Laurence Vial, c'est vous en fait qui avez permis cette étude, car elle a été menée sur les tiques que vous élevez à Montpellier. Est-ce que c'est compliqué d'élever des tiques ?
Alors, ça dépend desquelles, mais c'est vrai que voilà, une tique, c'est pas un moustique. Et son cycle de vie est très long. De plusieurs mois. Donc, c'est un travail de longue haleine pour élever des tiques.
Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en France.
On n'est pas beaucoup à avoir de ces infrastructures.
Olivier Duron, quelle était votre idée quand vous avez proposé à Laurence Vial de vous prêter ces tiques ?
J'ai été voir Laurence parce que je m'intéresse essentiellement aux micro-organismes qui sont présents chez les tiques. Et on s'est très rapidement rendu compte dans notre équipe que beaucoup de tiques, voire quasiment toutes les tiques, hébergeaient des bactéries bien particulières qu'on a retrouvées chez tous les individus de ces tiques-là. c'était pas des bactéries pathogènes et on s'est posé les questions de savoir quelle était la nature des interactions avec ces tiques et pourquoi toutes les tiques avaient apparemment ces bactéries-là.
Vous aviez forcément une idée derrière la tête avant d'aller voir Laurence, j'imagine.
J'avais une idée derrière la tête, bien sûr, parce que les tiques sont des hématophages stricts, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang dès leur naissance. C'est la nourriture exclusive des individus durant toute leur vie. Et c'est une alimentation qui est riche en lipides, en protéines, en sucre, mais qui est pauvre en certaines vitamines, dont notamment les vitamines B. Et du coup, on a émis l'hypothèse que ces bactéries-là pouvaient justement fournir un supplément de vitamine B à leur hôte.
Alors oui, quel est précisément le rôle de la bactérie vis-à-vis du sang qui est ingéré par la tique ?
Alors voilà, ce sang donc contient de la vitamine B, on en a dans notre sang, mais c'est pas en quantité suffisante pour permettre à la tique de se développer. Et en fait, ces bactéries ont la capacité, dans leur génome, elles ont des voies de biosynthèse de différents types de vitamine B, comme de la biotine, de la riboflavine ou de l'acide folique, qu'elles sont capables de synthétiser et qu'elles vont donner à leur...
Ah, on a une petite coupure avec notre duplex. Est-ce qu'on entend Laurence Vial et Olivier Duron? Allô, allô, est-ce que nous sommes toujours... Oui, on vous entend apparemment, vous êtes revenus.
Oui, vous nous entendez.
Voilà, vous pouvez poursuivre.
Voilà.
Vous étiez en train de nous expliquer donc, comment la bactérie permettait à la tique d'avoir de la vitamine B.
Voilà, donc cette bactérie a la capacité de synthétiser cette vitamine B, qu'elle a synthétisée en quantité assez importante pour la tique. Et en fait, quand on prive la tique de cet apport de vitamine B avec d'origine bactérienne, et ben les tiques ne parviennent plus à se développer. On n'arrive plus à avoir de tiques adultes. En fait, les tiques arrêtent très tôt de se développer. Et du coup, on n'a plus de reproduction et la population s'éteint très rapidement.
Laurence Vial, que fait une tique dans la nature quand elle ne trouve pas de sang ?
Alors, quand elle ne trouve pas de sang, alors là aussi, ça dépend un peu des espèces. Quand la saison n'est pas favorable, eh bien, elle peut se mettre en diapause. C'est-à-dire qu'en fait, elle se met un peu au ralenti. Son métabolisme se met au ralenti et elle attend qu'un hôte arrive et passe. Et nos tiques qu'on a chez nous au CIRAD sont des tiques molles qui, elles, ont vraiment une biologie très, très particulière parce qu'elles arrivent à rester à jeun pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Plusieurs années.
Donc vous avez des tiques molles et des tiques dures d'un côté et des tiques molles de l'autre, c'est ça ?
Ah oui, alors les tiques dures, ce sont des tiques qu'on connaît généralement, qu'on voit sur nos chiens, qui ont un scutum, c'est-à-dire une carapace dure. Et puis, il existe des tiques molles qui, elles, vivent plutôt dans des terriers ou sinon dans des anfractuosités de maison et qui, elles, sont uniquement constituées d'une peau molle, qui peuvent aussi transmettre des maladies.
Olivier Duron, vous, ce qui vous a intéressé dans cette étude, c'est ce qu'on appelle la coévolution, c'est l'histoire de cette symbiose entre la tique et la bactérie. Comment ça s'est passé dans l'histoire de la tique, l'acquisition de cette bactérie ?
Alors, on ne sait pas exactement ce qui est à l'origine de l'acquisition de cette bactérie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 900 espèces de tiques. Alors, on n'a pas pu toutes les regarder, mais toutes les espèces de tiques qu'on a regardées, aujourd'hui, on en a regardé plus de 150 dans notre laboratoire. Et on a retrouvé dans pratiquement toutes des bactéries symbiotiques du même type que celles qu'on vient de décrire. Et ça suggère que du coup cette association est extrêmement ancienne. Dans certains cas, on a pu dater ces interactions. Et nos estimations sont à minima de 14 millions d'années. Donc on est vraiment sur des interactions extrêmement longues et extrêmement fidèles. C'est-à-dire que la tique et son symbiote peuvent rester associés sur des périodes évolutives extrêmement longues.
Est-ce que c'est comme nous avec nos bactéries intestinales, la bactérie est dans le tube digestif de la tique ?
Alors, non.
Ah bon ?
Là, c'est une interaction qui est beaucoup plus poussée, puisque ici, la bactérie est une intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle vit vraiment à l'intérieur des cellules de son hôte. Et son mode de transmission est très particulier, puisqu'elle est transmise de mère à descendant, via un mode de transmission qu'on appelle un transovarien. C'est-à-dire que l'œuf, dès l'origine, en fait, dès sa conception, contient déjà des bactéries symbiotiques à l'intérieur, qui vont se développer. C'est-à-dire que l'individu naît avec ces bactéries symbiotiques et les femelles vont les transmettre elles-mêmes directement à leur descendance.
Laurence Vial, une dernière question. Est-ce que cette étude va nous aider à mieux comprendre pourquoi les tiques sont porteuses de tant de bactéries et tant de maladies ?
Oui, ça peut. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment intéressée sur cette collaboration avec Olivier, c'est qu'en fait, c'est vrai que moi, en tant que vétérinaire, je pensais qu'une tique, c'était forcément méchant avec plein de pathogènes à l'intérieur. Et en fait, cette étude met en évidence que il n'y a pas que des pathogènes dans les tiques, mais aussi des bactéries qui peuvent effectivement être bénéfiques à la survie de la tique. Et donc, il faut faire très attention sur ce qu'on détecte à l'intérieur de nos tiques, même si ce sont des vecteurs de beaucoup de pathogènes.
Bon, bah, c'est une façon de réhabiliter donc ces tiques mangeuses de sang grâce à cette étude de Laurence Vial et Olivier Duron. Merci beaucoup. Merci aux équipes de France Bleu Hérault qui nous ont permis ce duplex aujourd'hui. Bon week-end à vous et Axel, à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, à quelle vitesse la vie est-elle repartie après la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années? Eh bien, selon une étude parue dans la revue Nature, les choses seraient allées très vite. Des paléo-océanographes ont étudié en effet la forme du cratère d'impact de la météorite et en ont déduit que son ouverture sur le golfe du Mexique a permis d'y faire rentrer une eau riche en nutriments. La vie serait donc apparue abondamment quelques temps seulement après le déluge. Régénérer les tissus durs de l'émail des dents, voici la nouvelle prouesse réalisée par une équipe de l'Université de Londres. En utilisant une protéine spécifique, les scientifiques ont été capables de générer un émail dentaire synthétique semblable en tout point en autre. Le matériau ainsi créé pourrait s'avérer très utile pour les dentistes en permettant de traiter des problèmes tels que la sensibilité des dents dont souffre une large partie de la population. La Grande Faucheuse a été particulièrement perverse avec l'un des habitants de l'ancienne Pompéi. Le jour de l'éruption du Vésuve, des archéologues italiens ont retrouvé le squelette d'un homme dont le thorax et la tête avaient été écrasés par un énorme bloc de pierre. Ironie de l'histoire, l'homme dont une des jambes a été cassée avait probablement échappé à la mort une première fois et s'est donc pris une pierre sur la tête en voulant fuir. Pour les amateurs d'humour noir, la photo du squelette malchanceux est disponible sur la page Facebook de La Tête au Carré. Et puis on termine non pas avec une, mais deux cocoricos et deux chercheuses françaises qui sont honorées par le prestigieux prix Kavli. On l'a appris hier, la biochimiste Emmanuelle Charpentier et la généticienne Christine Petit de l'Institut Pasteur seront récompensées à hauteur d'1 million d'euros le 4 septembre prochain pour, je cite, leurs travaux pionniers qui bénéficieront à toute l'humanité. Allez, notre club dans un instant. Je me lève et tout fout le camp.
sourde et furtive, comme un pressentiment. Sur le qui-vive, la voiture ivre, le jour suivant, parlant-moi comme un
appelle la voiture ivre, Judas Warski à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Et dans le club cet après-midi, les différents sens du mot science. On fera une guerre avec les fourmis et puis on accueillera nos nouvelles finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes. Et puis bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages pour nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé, l'attaque. Jean-Lee Lundsten, on commence avec vous. Vous êtes docteur en géophysique, chercheur CNRS au laboratoire de planétologie de Grenoble et donc vous venez nous présenter cet ouvrage « Les sens du mot science » qui paraît aux éditions ODP Science et qui s'inscrit plus dans votre enseignement d'ailleurs. De la philosophie des sciences. C'était l'objet au départ, c'était de réfléchir vraiment à ce mot qu'on utilise tout le temps sans bien savoir finalement ce qu'on y met parfois.
Ouais, tout à fait. Quand j'ai été embauché au CNRS en astrophysique, je me demandais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce boulot? Qui je suis? Alors j'ai commencé à
question
lire.
Question existentielle.
Ouais. Voilà. J'ai commencé à lire Monod, Axel Kahn, j'ai commencé à lire Popper, Chalmers, fantastique, Kuhn. Et puis ensuite, donc ils m'ont bien expliqué qui j'étais. Mais quand j'ai commencé à discuter avec des économistes ou des sociologues, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Ouais. Ou avec des mathématiciens, ça marchait plus non plus, quoi. Alors je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le mot science qu'on utilise tous? On est tous des scientifiques, pourquoi ça n'a pas le même sens?
Ouais. Et ça, quand vous posez la question autour de vous à vos confrères, est-ce que ça fait l'objet de d'âpres discussions entre vous ou pas?
Il n'y a pas vraiment d'âpres discussions, mais il y a à coup sûr une méconnaissance les uns des autres, très très forte. Ouais. Quand on lit, il y a 3 ans, un livre fantastique d'économie qui est sorti, qui a été écrit par Zilberberg et Kahuk, des très très bons économistes, on se rend compte qu'ils essayent de se référer à ce que nous on fait dans les sciences de la nature en économie, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. C'est des très 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 bons, hein. Je critique pas leur compétences économiques, elles sont bien supérieures. Mienne. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on ne parle pas des mêmes choses.
Ouais, et les méthodes ne sont pas les mêmes non plus. Alors que finalement, on peut entendre du côté des économistes des affirmations qui vous font hérisser le poil, hein, si je comprends bien.
C'est-à-dire qu'on ne répond pas exactement aux mêmes questions. Nous autres, en sciences, que j'appelle les sciences de la nature, on répond à la question comment? Comment ça marche? Voilà. En sciences de la culture, c'est-à-dire l'économie, la sociologie, la psychologie, on répond à pourquoi. C'est beaucoup plus fort. Nous, on a abandonné le terrain du pourquoi en race ouais. campagne. Eux, ils l'abordent. Ouais. Mais du coup, les méthodes ne sont pas les mêmes.
Ouais. Pourquoi c'est compliqué pour vos domaines scientifiques, comme par exemple la physique, les mathématiques, l'astronomie, d'aborder cette question du pourquoi alors? Parce que c'est un petit peu pas franchement politiquement correct en tous les cas?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Notre propos à nous dans les sciences de la nature, c'est d'étudier le monde tel qu'il est, voilà, tel qu'il nous est donné. Donné par qui ou par quoi, j'en sais rien, c'est pas mon problème, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi le monde tel qu'il m'est donné? C'est la masse de l'électron, la masse du proton, les constantes de la gravité, de Planck, des lois et des nombres. Ouais. À partir du moment où j'ai ça, je suis capable d'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi c'est comme ça la masse de l'électron, j'en sais rien, quoi. C'est pas du tout mon problème. Ce qu'étudient les sciences de la culture, c'est l'humain dans la société. Ah ça c'est très très différent. Oui. Alors on peut utiliser les mêmes vecteurs, on peut utiliser des équations, des mathématiques, on peut utiliser les mêmes outils, mais il faut bien comprendre pourquoi on les utilise et quelles sont les conditions autour de ces outils.
Donc c'est aussi un livre d'utilité publique, hein, puisque vous mettez les choses à plat aussi pour nous expliquer ce qui se cache derrière ces différentes sciences, au fond, parce que ça concerne aussi la société de savoir tout ça. C'est important quand même de pouvoir définir les choses.
Bah, ça me paraît important parce qu'on sait bien que les sciences de l'ingénieur, par exemple, peuvent mettre en péril toutes les sociétés dans le futur si on n'y prend pas garde, si les sciences de la culture ne s'intéressent pas un petit peu à pourquoi on fait des sciences de l'ingénieur. Mmh. Les mathématiques, c'est quelque chose de totalement différent. Mais nous autres, en sciences de la nature, on met aussi le monde en danger. On implante dans la tête des gens des notions comme quoi il pourrait y avoir des nombres purs, super précis, et que ça n'existe pas. Ça, c'est des notions presque fascistes, quoi. Ça faut faire très très attention à ce qu'on raconte en sciences de la culture. Ouais. Donc, si on arrive à définir bien ce que sont les sciences de la culture, de la nature, de l'ingénieur ou les mathématiques, les quatre grands pans de la science, ça permet quand même d'éviter un petit peu quelques écueils.
Ouais. Est-ce que les mathématiques ont quand même un statut particulier parmi tout cela ?
Elles ont un statut fantastique, c'est extraordinaire, parce que nous, on étudie le monde tel qu'il est. Et les sciences de la culture, elles étudient l'humain dans la société. Mais les mathématiques, elles n'ont pas besoin de ça. Elles inventent un monde. Mmh. Elles inventent un monde avec ses habitants, qu'on peut appeler et puis les relations entre les habitants, qu'on peut appeler des fonctions, par exemple. Mmh. Et à partir du moment où elles ont inventé un monde, elles explorent ce monde. C'est des explorateurs, les mathématiciens.
Franck Courchamp, vous qui êtes directeur de recherche au CNRS, c'est quoi pour vous un scientifique, alors? C'est quoi pour vous la science, tiens?
Justement, j'étais en
train de me poser... C'est une question que je ne pose jamais à mes invités, finalement.
J'étais en train de me poser la question parce que, moi, je travaille de plus en plus en biologie de la conservation, c'est-à-dire la science qui étudie pourquoi les espèces déclinent et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'elles s'éteignent. Donc c'est à la fois quelque chose qui va tenir aux sciences de la nature et quelque chose qui va tenir aux sciences de la culture. Et donc, comme c'est un petit peu à l'interface, ça explique peut-être pourquoi c'est pas une science qui est très facile.
Il y a un moyen très très simple de distinguer les deux, parce qu'on confond le pourquoi et le comment. Quand un enfant il est dans le train, il dit pourquoi le train il roule, et les parents ils disent parce que les gens veulent aller quelque part. Mais peut-être que l'enfant il demande comment il roule, et que si on lui répond parce qu'il y a un moteur, c'est bon, quoi. Si le comment peut se substituer au pourquoi, alors la question c'est comment. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Si jamais je dis pourquoi est-ce qu'il y a eu la révolution de 1789, je peux pas substituer comment à ça. Alors la question c'est pourquoi.
Alors voilà. Christelle et Nadège, dites... nos jeunes doctorantes précisément, je vous pose à vous aussi la question. Nadège, c'est quoi pour vous la science et le rôle du scientifique aussi, tiens, pourquoi pas aujourd'hui?
Mais justement, j'ai commencé un peu à réfléchir autrement.
Ça fait réfléchir,
oui,
effectivement.
J'ai toujours associé la science plus à quelque chose de vivant, de comprendre le pourquoi, parce que j'étais plus dans la biologie. Et donc oui, avec la physique, expliquer comment le vivant, je rapportais toujours ça au vivant. Mmh. Mais du coup, là maintenant, j'ai des doutes.
Mais ça, c'est bien. Ça fait plaisir aux philosophes, évidemment. Hein. Oui, Jean-Louis Le Sten. C'est bien d'avoir des doutes, non, sur ces questions-là.
Oui, c'est la dernière histoire. Parce que comme je m'ennuie beaucoup, j'ai peur d'ennuyer les autres. Alors, je raconte des histoires drôles dans ce bouquin. Et la dernière histoire, c'est une histoire sur le doute. C'est absolument fondamental, bien sûr.
Ouais, Christelle, pour vous, alors.
Alors moi, je pense que la nuit qui arrive, je vais beaucoup réfléchir. Parce que pendant qu'il parlait, je me posais la question, justement. Je ne me suis jamais posé la question. Mais moi, je pense que quand j'entends science, j'entends recherche, j'entends progrès, j'entends évolution, j'entends compréhension.
Ouais, alors recherche, ça c'est important justement, Jean-Louis Le Sten, parce que le scientifique, en tout cas la définition que vous en donnez, c'est vraiment celui qui est en train de faire les choses aussi, hein, qui est en train de prouver, en train d'expérimenter.
Oui, tout à fait. Le rôle de la science, c'est d'augmenter les connaissances. Voilà. Augmenter les connaissances pour le privé, pour le public, c'est pas le problème. C'est juste augmenter les connaissances. Quand vous parlez du progrès, immédiatement, en fait, ce à quoi on pense, c'est les sciences de l'ingénieur. Et pourquoi? Parce que les sciences de l'ingénieur répondent à une seule question, un seul comment, c'est comment rendre l'humain ou l'humanité plus efficace. Et ça veut pas dire améliorer l'humanité, parce que selon où on se positionne, l'amélioration, ça peut être vraiment une détérioration, on n'en sait rien, quoi. Donc, leur question, c'est comment rendre l'humain plus efficace, ou la société, ou l'humanité. Et c'est à ça que vous faites référence, en fait. Oui, et il y a une confusion, parce que en quoi un économiste, c'est un scientifique? Et pourtant, c'en est un, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai plein de copains économistes, ils sont très très forts, quoi. En quoi un sociologue ou un psychologue, c'est un scientifique? Et pourtant, ça, c'est très très différent des sciences de l'ingénieur auxquelles on se réfère à l'instant.
Est-ce que le médecin, c'est un scientifique, justement? Parce que ça, c'est un exemple intéressant.
La médecine, c'est une discipline à l'interface, parce qu'on sait bien que pour faire de la médecine, il faut à la fois comprendre pourquoi les patients sont malades, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête, et puis comment ça a fonctionné la maladie. Donc la médecine elle-même, elle est à l'interface. Le médecin lui-même, il produit pas de la connaissance, donc c'est pas un scientifique lui-même.
Donc là, c'est important aussi cette définition, produire de la connaissance.
Absolument.
Hein. Aline Richard.
Oui, moi qui ne suis pas scientifique, je me pose une question et ça fait longtemps que je me la pose. Je ne comprends pas pourquoi, et vous allez certainement pouvoir m'éclairer un petit peu, en fait, il y a une notion de dialogue entre tous vos scientifiques, les sciences de l'ingénieur, les sciences de la nature, les sciences de la culture, comme vous dites. Pourquoi les gens ne dialoguent pas plus? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes référentiels? On sait bien que le dialogue en science produit des choses intéressantes.
Ouais, j'en suis convaincu. Je pense qu'il faut absolument inventer la démocratie de l'ère scientifique, que sinon, si on l'invente pas, on court à notre perte.
La démocratie, pour la société ou pour les scientifiques?
Pour la société, pour la société. Et que inventer cette démocratie, ça passe par le dialogue entre les scientifiques. Mais c'est vraiment compliqué dans nos laboratoires en sciences de la nature. Donc, je suis astrophysicien. Il y a une grande tendance à considérer que ceux qui font des sciences de la culture, c'est pas vraiment des scientifiques, quoi.
Ouais.
Faut se méfier. C'est pas vrai.
On sait bien ça, oui, qu'il y a cette espèce d'arrogance.
Oui.
Les sciences dites exactes.
Sauf que quand même, il y a de plus en plus de ponts qui s'établissent entre les différentes disciplines. On voit ça qui ça se développe quand même aujourd'hui un petit peu.
Oui, ça se développe. Oui. J'ai à Grenoble, dans mon université, on se donne des conférences entre divers pan de la science, donc évidemment ça se développe. Néanmoins, on est encore loin du compte. Ouais. Il faut aller vite.
Jean-Lille Einstein, une ou deux questions, parce qu'il y a aussi des jeux dans votre livre. Hein. Vous avez voulu proposer un objet ludique comme ça au lecteur, alors pour justement essayer de définir la science, hein, pour essayer d'en donner une définition. Alors vous avez une ou deux propositions à nous faire, on va essayer de cogiter avec vous et avec les auditeurs.
Hein. Oui, est-ce que si je vous fais deux propositions, il y a 70% de chances qu'il neige demain à Grenoble, j'écris ce livre en hiver, et il y a 70% de chances pour les natifs de la Balance de tomber amoureux demain à Grenoble. Est-ce que une de ces deux phrases est scientifique? Est-ce que l'une des pas scientifiques, les deux le sont? Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a une qui l'est et pas l'autre, ou le contraire?
Alors, qui veut donner une réponse sur les amoureux qui vont tomber amoureux, c'est ça?
Les natifs de la Balance qui vont tomber amoureux
c'est
demain à Grenoble.
C'est pas très scientifique, ça, non?
Alors,
Jean-Lille Einstein, moi je dirais que c'est pas scientifique ça comme phrase, Franck Courchamp.
Je dirais que ça dépend vraiment de d'où viennent ces 70%, s'ils sont basés sur des vraies questions scientifiques, des cheminements scientifiques, des méthodologies scientifiques, ou si c'est basé sur des croyances populaires. Moi aussi, je peux dire, j'ai 70% de chances d'avoir, je sais pas, du fromage dans mon sandwich ce soir, mais c'est juste, je pense que c'est le cas, mais c'est pas de la science.
Et pourtant, pour la météo, on y croit tous. Quand un météorologue nous dit, alors là, 70% de chances qu'il neige demain, on y croit.
Ah, on sait qu'il y a des modèles météorologiques qui sont utilisés pour pouvoir faire des prédictions.
Ouais.
Donc c'est basé sur des algorithmes, sur des équations, sur des choses qui sont scientifiques.
Et ces modèles, ils ont deux caractéristiques essentielles. D'abord, ils sont réfutables, on peut dire le contraire, et puis ils sont prédictifs, vous l'avez dit. Et ça, c'est essentiel. Et il se trouve dans un cadre de pensée qui évolue. Et comment il est en évolution? Il est en évolution parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on progresse. En astrologie, c'est pas du tout comme ça. Hein. On est dans un paradigme qui bouge pas du tout, donc on appelle ça un dogme, et puis qui apprend pas du tout des erreurs du passé. Et on peut pas les réfuter. Parce que si jamais vous n'êtes pas tombé amoureux alors que vous étiez du bon signe, etc., vous pourrez dire, bah oui, mais j'étais dans les 30% qui restent. C'est pas réfutable.
Bon, on n'est pas dans la science, là, hein, sur l'astrologie.
La science.
Et sur les probabilités qu'il neige demain à Grenoble. Alors 70% de probabilité qu'il n'est. Est-ce qu'on est dans la science là ou pas?
Ah oui, on est dans la science. Grâce à ce qu'on vient de dire, hein, on a des modèles derrière qui sont réfutables, qui sont prédictifs, et on s'appuie sur une branche des mathématiques qui s'appelle les statistiques bayésiennes. C'est pas très grave, j'explique dans le bouquin ce que c'est très joli. Et c'est des statistiques qui permettent d'apprendre au fur et à mesure que le temps passe.
Et ça s'appelle l'essence du mot science, Christelle Quacam, Nadège Nziza. Si vous voulez méditer là-dessus pendant ce week-end, vous avez ce livre à votre disposition. Ça sort chez EDP Science. On parle de la guerre des fourmis dans un instant.
Right here.
Today is the Day avec Hills à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et la suite de notre club cet après-midi avec La Guerre des Fourmis, Francourchamps, Mathieu Huguetti et une bande dessinée à découvrir sur Internet et également sur le site The Conversation France. Aline Richard, vous ouvrez vos portes à d'autres modes d'expression scientifique justement ?
Oui, tout à fait. On aimerait parler de science dans toutes ses possibilités et la BD en est une. Et je crois que parler de science en racontant des histoires et en les dessinant, c'est tout aussi efficace que d'écrire un article.
Et celui qui les dessine, c'est Mathieu Huguetti. Vous êtes illustrateur graphiste. Et donc, avec Francourchamps, vous avez consacré cette bande dessinée aux fourmis. Vous aviez déjà dessiné ces animaux, Mathieu Huguetti, ou pas ?
Ah non, c'est une grande première.
C'est vrai, ouais. Comment on travaille justement sur des objets aussi scientifiques ? Est-ce qu'on est dans la précision ou est-ce qu'on se laisse quand même une grande liberté en tant qu'artiste et illustrateur ?
Alors, un peu des deux, ouais. Forcément. Les fourmis, il y a des formes très variées, avec des particularités physiques importantes, parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Forcément.
Bien sûr, oui.
Donc je me suis fait taper sur les doigts plusieurs fois.
Vous aviez oublié quelque chose au passage, oui.
Voilà, j'ai appris ce que c'était que le pétiole, par exemple, une partie qui est entre le thorax et l'abdomen, qui a 13 segments sur les antennes des fourmis. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais après, il y a beaucoup de liberté. Hein. C'est-à-dire que mon style graphique est assez... Oui. Assez simple et amusant.
Et puis vous les déguisez beaucoup, mettez dans des situations très différentes, donc on les voit vraiment dans tout un tas de postures. Francourchamps, donc ce travail, parce que vous travaillez justement à l'Université Paris-Saclay dans un groupe de recherche sur la dynamique de la biodiversité et les impacts de l'homme sur les écosystèmes et les espèces. Donc les fourmis, vous les croisez souvent dans le cadre de ces travaux ou pas ?
Alors oui, on a fait des études sur les fourmis pendant une bonne demi-douzaine d'années, dans le cadre de travaux sur les invasions biologiques. Ouais. Et sur l'impact du changement climatique sur les invasions biologiques. Mmh. Et comme on avait trois ingrédients intéressants pour les gens, les fourmis, les invasions, le changement climatique, ça plaisait pas mal à la presse. Mais c'était toujours un peu frustrant d'avoir que des petits bouts d'histoire. Et donc je cherchais un format qui soit un peu plus large pour pouvoir raconter vraiment toute l'histoire en entier. Ouais. Mais il fallait aussi que ce soit digeste, pas trop aride. Mmh. Et c'est là où la bande dessinée peut vraiment apporter quelque chose sans dénaturer le message scientifique.
Ouais. Donc là, il n'y a pas de publication pour l'instant sur papier ou en album. Hein. C'est juste sur le site internet, c'est laguerredesfourmis.com ou The Conversation France si on souhaite avoir un épisode nouveau.
Totalement gratuit,
chaque semaine
pour tout le monde.
Ouais. Et c'est une histoire qui s'inscrit dans quelle durée ? Alors vous allez comme ça produire des épisodes au fil des publications sur les fourmis ou vous considérez que là, vous avez fait vraiment un travail qui est fini ?
Alors en fait, les publications scientifiques, elles sont déjà parues. Pour la plupart, il y en a une qui est encore...
Il y en a souvent sur les fourmis. Hein.
En fait, il s'agit des publications scientifiques de notre équipe en particulier. Et donc la bande dessinée, elle est terminée pour l'instant. On va la distiller un épisode par semaine, mais la BD est terminée.
Alors ces fourmis envahissantes, parce qu'à la fois elles nous font peur, mais elles nous fascinent aussi. On va écouter un petit reportage justement qui date de 2015, qui a été tourné par France 3 Région dans le Loir-et-Cher, dans l'un des quartiers de Meusne, c'est le nom de cette commune. Et regardez ce qui s'y est passé.
Pour Jimmy et sa compagne, il n'y a plus de déjeuner sous le prunier. Les fourmis ont définitivement envahi l'arbre fruitier, les sièges de jardin et la nappe.
Ça fait déjà 3-4 ans pour nous, pour notre part, nous venons d'arriver. Et il est impossible maintenant de manger dehors. C'est plus possible, il y en a partout.
Leurs voisins lui voient les colonies de fourmis suivre les fils électriques, puis venir mourir sur le carrelage. Alain Piau est un professionnel de la lutte contre les insectes, mais depuis des mois, il essaie de nouveaux traitements.
C'est une espèce invasive qui, d'après les recherches les plus cohérentes, viendrait de Turquie, qui a été véhiculée apparemment par des matériaux de construction, qui a investi les lieux et qui trouve ici un environnement favorable.
9 maisons sont désormais envahies par cette espèce de fourmi. Meusne est une des 10 communes de France frappées par cette invasion et qui ont le courage de la révéler. Mais en réalité, elles seraient bien plus nombreuses.
Voilà, donc c'est Meusne, on le prononce comme ça dans le Loir-et-Cher. Et c'était en 2015, donc je ne sais pas ce qui est arrivé depuis, si les gens sont débarrassés enfin de ces fourmis. On aura peut-être d'ailleurs des mails d'auditeurs pour nous le dire. Cette fourmi, vous la connaissez, Francourchamps, ou pas ? Cette fourmi turque, comme c'est indiqué dans le sujet, là, à l'instant ?
Non, c'est une des petites héroïnes de la BD, de l'histoire. On travaille en fait sur plusieurs espèces de fourmis qui ont toutes des noms extraordinaires. On a la fourmi électrique, la fourmi de feu, la fourmi folle, la fourmi etc. Il y en a plein comme
ça. Oui, c'est vendeur.
Et puis il y a cette fourmi-là aussi qui va faire partie de l'histoire.
Ouais, c'est une fourmi des jardins tout simplement ou...
Alors on l'appelle la fourmi invasive des jardins.
Des jardins, ouais.
Elle a aussi un autre nom et ça va faire partie de l'histoire. Son nom qui est un petit peu particulier, donc je ne révèle rien là-dessus.
Mais teasing.
Alors donc on la trouve en France, là aussi. Et qu'est-ce qui la caractérise alors précisément? Quel est son mode de fonctionnement?
Alors comme pratiquement toutes les espèces de fourmis envahissantes, elle est particulièrement agressive. Elle est particulièrement agressive envers les autres fourmis. Mmh. Elle est particulièrement destructrice parce qu'elle va éliminer la plupart des fourmis locales, des autres invertébrés. Elle peut poser je sais pas comment dire. Elle ennuie les gens parce qu'elle est chez eux, mais ça c'est pas encore le pire. Il y a des fourmis qui sont bien pires dans les fourmis envahissantes, des fourmis qui piquent l'homme, qui peuvent causer des chocs anaphylactiques, par exemple. Donc ça là c'est quand même pas la pire.
Est-ce qu'on a une augmentation de ces phénomènes aujourd'hui ou pas?
Alors oui, il y a avec les échanges planétaires qui augmentent de plus en plus avec la mondialisation, avec le réchauffement climatique qui va permettre à certaines espèces d'insectes de passer l'hiver plus facilement. On a de plus en plus d'invasions d'insectes et de plus en plus d'invasions d'espèces de fourmis.
Ouais. Mathieu Guitty, est-ce que ce sont de vraies scènes de bataille que vous avez pu dessiner pour cette bande dessinée, puisqu'on parle de la guerre des fourmis?
Oui, c'est beaucoup de combats. Donc on a imaginé des mises en scène avec une petite fourmi de Napoléon qui envoie ses troupes au combat, par exemple. Et c'est pas vraiment mensonger parce que on met aussi sur le site des liens pour voir des photos et des vidéos, et on a notamment des vidéos assez terribles de combats, une attaque de fourmis sur une termitière.
Ouais.
C'est terrible, c'est un vrai carnage.
L'assaut est affreux, effectivement. Aline Richard, une question pour nos invités.
Je me demandais si on pouvait parler de corps collectif quand on parle des fourmis ou d'autres insectes, parce qu'on a tous en mémoire ces informations sur des espèces de colonies qui traversent les continents et qui vont envahir comme ça de nouvelles terres. Vous diriez un corps collectif?
Oui, il y a une des caractéristiques des espèces envahissantes, c'est qu'elles forment ce qu'on appelle des super-colonies. C'est-à-dire que les colonies ou les fourmilières sont connectées les unes aux autres et les fourmis d'une même espèce mais de différentes fourmilières ne se combattent pas les unes les autres comme elles le font dans les autres espèces. Et donc elles peuvent avoir ainsi la main mise sur des territoires gigantesques. Donc on parle de super colonies, mais on parle aussi d'intelligence collective pour les fourmis.
C'est ça.
Intelligence collective dans la mesure où la colonie arrive à résoudre des problèmes qui ne sont pas à la portée des individus seuls. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans le monde animal.
Christelle Quacam.
Oui, moi, c'est le format de la BD qui me plaît beaucoup, puisque c'est le format que j'ai d'ailleurs choisi pour ma diapositive pour le concours.
Absolument.
Et donc, Leslie Dumortier, qui est une amie à moi, a bien voulu me la faire. Et, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Alors, du coup, ma question, c'est comment vous travaillez ensemble? En fait, comment l'alliance se fait entre
le scientifique et le dessinateur?
Exactement.
Ouais. Alors, Mathieu, peut-être?
Alors, c'est Franck qui est venu me voir avec. Il avait déjà cette idée de faire une bande dessinée sur les fourmis. Et un certain nombre d'idées déjà de mise en scène. Donc je l'ai écouté me parler de fourmis pendant des heures. Et
vous en avez rêvé la nuit, j'imagine.
Oui, beaucoup.
C'est vrai.
Et donc du coup, voilà, après on passe à une phase de séquençage, de storyboard. Et sur le storyboard, beaucoup de choses apparaissent. On se met d'accord, on rajoute plein de petites blagues, parce que c'est ça.
Oui. Toujours en restant justement dans le cadre de la science, parce qu'attention, vous avez Jean-Lee Lundsten aussi qui nous écoute attentivement et qui dit attention, il faut rester dans les clous. C'est toujours la préoccupation principale, Franck Courchamp.
Alors, oui, c'est-à-dire que c'est un objet de vulgarisation scientifique. Le but, c'est d'apporter de l'information aux gens. Mais la science, même si c'est sérieux, ça ne veut pas dire que c'est aride. On peut mettre de l'humour. En plus, Mathieu et moi, on a un peu le même genre d'humour. Donc on se faisait rigoler l'un l'autre, c'était très bien. Mmh. On a fait énormément d'allers-retours pour pouvoir être toujours au plus près de la science. On a également été auprès de myrmécologues, c'est-à-dire d'experts sur l'écologie des fourmis. Donc on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites choses qui n'allaient pas. Mais évidemment, quand Mathieu met en scène des fourmis sur des tracteurs... ou des combats avec des tanks, c'est sûr que c'est un petit peu le délire de l'auteur. Mais ça reste quand même un message scientifique avec l'explication de plusieurs études, mais des études qui sont intéressantes, avec des laboratoires dans lesquels il y a des labyrinthes de fourmis, dans lesquels il y a des arènes avec des combats des espèces parmi les pires invasives qui est au monde, pour savoir laquelle va gagner. Et on s'est aperçu qu'il y avait des stratégies extraordinaires entre les différentes espèces. On s'est aperçu qu'en fonction de l'ennemi et en fonction des forces en présence, les stratégies étaient différentes. Ça, c'était la science. Et ça, évidemment, on peut le présenter avec un point de vue anthropomorphique, ce que Mathieu sait faire avec un talent vraiment extraordinaire.
Voilà, donc on peut voir ce travail. Oui, Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose ?
En fait, le principe scénaristique, c'est qu'on a une jeune chercheuse qui explique à sa copine ses études sur les fourmis. Mmh. Et donc, en fait, on a cette voix off qui est très scientifique. C'est les paroles de la chercheuse. Qui est mis en parallèle avec des mises en scène plus humoristiques qui sont les pensées de son ami. Donc on a toujours quand même la voix off très scientifique. Voilà.
Et la copine qui délire complètement et qui interprète ça à sa façon.
On peut donc voir ces planches, cette BD sur les fourmis envahissantes sur laguerredesfourmis.com et puis également sur The Conversation France où vous faites un carton également avec le verre plat, Aline Richard.
Oui, on est très bébêtes en ce moment. On est très bébêtes.
Les fourmis envahissantes, alors, les
verres plats
menaçants.
Les plates-mains terrestres, voilà, les fourmis aussi. Invasives, les tiques. On a fait beaucoup de tiques aussi.
Tout ça sur votre site d'information The Conversation France. Et nous, nos jeunes chercheuses, on les a aussi. Elles sont là en studio. On les accueille dans un instant. Kessel Kwakam et Nadège Enziza pour parler évidemment de ma thèse en 180 secondes.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Faut-il encore vous présenter Louise Attaque à l'instant avec ton invitation ?
C'est parti.
La tête au carré. Ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Deux nouvelles finalistes pour le concours MT 180, finale donc mercredi 13 juin prochain au Théâtre National de Toulouse avec France Inter, le CNRS et la CPU, puisque la Tête au Carré est partenaire. Christelle Kouakam et Nadège Enziza sont avec nous. Comment allez-vous toutes les deux à 12 jours maintenant de votre montée sur scène face à la foule?
Vous avez l'air lancé.
Ouais, vous avez l'air hyper relax, hein, franchement.
On a l'air, tout à fait.
Oui, c'est vrai.
On cache bien. On cache
bien. Vous le cachez bien, Nadège?
Le stress commence quand même à remonter un petit peu, mais on se rapproche un petit peu. Quand même.
Vous sentez des petites fourmis, vous aussi. Alors, c'est ça. Christelle, est-ce que vous avez beaucoup retravaillé par rapport à vos prestations sur la finale régionale en particulier ou pas?
Très honnêtement, pas tellement, parce qu'en fait, en même temps, il a fallu que je gère ma fin de thèse et la rédaction du mémoire. Donc, il a bien fallu mettre des priorités, un petit peu un ordre dans toutes ces tâches. Et puis, avec mes formateurs, on avait trouvé que le texte était déjà très bien comme ça. Alors, on s'est dit, il passe bien comme ça, on le laisse comme ça.
Quatrième année de thèse, doctorante à l'université de Picardie, Jules Verne. Donc, c'est la fin de la thèse. Ça y est, tout va bien. Et donc, on va écouter un extrait, justement, de votre prestation lors des finales régionales.
Ah, les bébés. Qu'est-ce que c'est mignon! Saviez-vous que ces petits bouts, même au chaud pendant plusieurs mois dans le ventre de leur maman, pouvaient être exposés aux pesticides? Des études ont montré que le fœtus était déjà exposé aux pesticides par inhalation et par l'alimentation de la maman. Pour aller plus loin, ma thèse vise à étudier l'impact des pesticides sur des fonctions essentielles, comme le sommeil de bébé, très important pour son neurodéveloppement, et sa respiration. Pour beaucoup, changer une couche, surtout pleine de caca, est une vision d'horreur de cette matière qui change de couleur au gré des repas. C'est dans ce caca que j'effectue le dosage des pesticides et c'est ce qui me permet de connaître le niveau d'exposition des nouveau-nés. Données clés de ma thèse.
Voilà, et ça aussi, le caca, c'est le mot-clé de votre prestation, hein, Christelle. Vous y allez abondamment pour expliquer exactement ce que vous faites, puisque vous avez les mains dedans. Hein.
Parce que c'est exactement
concrètement,
ça.
Concrètement, c'est votre boulot. Là.
J'avais pas envie de tourner autour du pot, alors je suis allée directement.
Bravo. Ça, il faudra la refaire à Toulouse. Est-ce que vous êtes arrivée justement sur cette étude en particulier, puisqu'on a compris, hein, ça s'intéresse aux nouveau-nés prématurés.
Oui. Hein. Alors moi, j'avais vraiment envie déjà de travailler chez l'enfant, ça me plaisait beaucoup. Et puis, étant de Picardie aussi, on est une région par exemple très agricole, donc on entend aussi beaucoup parler de pesticides par exemple. Donc voilà, moi j'avais en tout cas besoin d'un sujet qui me parle. Et ce sujet-là était finalement l'alliance de tout ce dont j'avais envie. Quoi.
Ouais, il y avait des études précédentes justement sur cette question des pesticides et des selles des bébés.
Oui, tout à fait. Ouais. Au sein même de notre laboratoire, il y avait eu une étude qui s'était déjà intéressée à savoir est-ce qu'il y a des pesticides dans les selles. Déjà, c'était la première étape.
Donc, dès la naissance, c'est ça, il y aurait déjà des marqueurs dans les selles des enfants.
Il y a déjà des pesticides dans les selles des enfants. Donc, à travers la maman, en fait, l'enfant est exposé. Passe par le placenta.
Ouais. Alors, pardonnez-moi de vous demander des détails, mais comment vous avez récupéré ce caca de bébé, alors? Parce que c'est vraiment dès la naissance. Hein.
C'est dès la naissance. Donc, on est à l'affût, on est en partenariat avec l'hôpital d'Amiens, et donc les infirmières à qui j'avais bien expliqué l'étude, me tenait au courant quand un enfant arrivait. Et puis après, on faisait le nécessaire pour que à chaque fois qu'il y a le petit cadeau dans la couche, et ben, on le récupère.
Et ça fait votre bonheur.
Et ça fait mon bonheur, vraiment.
Et ça inspire Franck Courchamp qui souhaite vous poser une question, Franck.
Ouais, je me demandais si ces pesticides arrivent par l'alimentation de la maman. Mm-hmm. Et si oui, est-ce que du coup, vous avez regardé les mamans qui mangent bio? Est-ce qu'il y a moins de pesticides dans les selles des nouveau-nés?
Alors, on sait, effectivement, donc les enfants sont exposés par l'alimentation et autres, hein, donc l'inhalation aussi dans des pesticides de l'air. Et donc, on a récupéré un questionnaire pour voir, connaître les habitudes alimentaires des mamans, mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de mamans qui avaient de l'alimentation bio. Mmh. C'était difficile de vraiment pouvoir faire la comparaison entre celles qui mangent beaucoup bio, celles qui mangent un petit peu bio. C'était très difficile.
Franck vous suggère en tout cas une étude future.
Tout
parce
à
que
fait.
Il faudra comparer les différentes populations. Et vous, c'était en lien avec le sommeil et la respiration du nouveau-né, voir l'impact des pesticides, justement. Voilà. Vous avez déjà des résultats, Christelle?
Oui, donc du coup, bon là, c'est tout frais, mais alors la première étape de la première étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était déjà de savoir est-ce qu'il y a des pesticides dans le méconium, et à partir du moment où on savait qu'il y en avait, on s'est posé la question, est-ce qu'il pouvait y avoir un impact après sur des fonctions physiologiques? Et on s'est rendu compte que les enfants, par exemple, dorment moins longtemps, semblent dormir moins longtemps lorsqu'ils sont exposés aux pesticides et principalement aux organophosphorés. Et donc ont un sommeil plus fractionné avec des éveils un peu plus fréquents. Voilà.
Donc ce lien que vous avez fait au travers de cette étude, mais les travaux se poursuivent aussi. En attendant, vous allez monter sur la scène du Théâtre National de Toulouse. Tout comme Nadège Enziza, doctorante à l'Université de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Mmh. Votre sujet de thèse, Nadège.
Les cellules myéloïdes et les micro-ARN dans l'arthrite juvénile, donc aussi chez les enfants.
Ouais. Et ça, c'est pas facile de le vulgariser, j'imagine, non
hein? Oui, justement, et cette difficulté-là, quand on parle de micro-ARN, par exemple, trouver les termes exacts en vulgarisant et en étant court, parce que c'est aussi ça l'exercice, et bref, c'est un peu difficile.
Mais vous avez trouvé une idée, et on va l'entendre tout de suite.
Vous avez tous déjà joué à Cluedo, ou du moins déjà entendu parler de ce jeu. Eh bien moi, quand j'étais petite, j'adorais jouer à ce jeu de société où il fallait identifier le meurtrier, voir dans quelle pièce du manoir il a agi et avec quelle arme. Avec ma thèse, j'ai poursuivi ma passion pour le Cluedo et j'ai un peu adapté la version de mon enfance. Dans cette toute nouvelle version que j'ai nommée Cluedo 2.0, on oublie le colonel Moutarde, on oublie le manoir et on se plonge dans une articulation d'enfant qui est toute gonflée.
Voilà, Nadège Enziza, il fallait trouver vraiment des clés pour amener ce sujet difficile sur ce thème donc qui concerne l'arthrite juvénile. Hein. Et vous avez inventé plein de personnages, justement.
Voilà ça, donc mes cellules, je les ai identifiées à des personnages qui ont chacun un nom différent et une fonction différente, mais ça reste des cellules du système immunitaire. Mais plutôt que de dire cellules myéloïdes, on parle de Bob et de Kim et de...
Et de Gaël.
ce sont
des personnages, mais c'est une bonne idée, effectivement. Ouais. Alors, vous l'avez testé déjà sur le public. Est-ce que vous avez senti qu'on avait bien compris l'objet de votre travail
Et justement, au tout début, mon texte, il ne ressemblait pas vraiment à ça. Je parlais de fonction de cellules. Et quand je voyais que justement avec mon public, je les perdais un petit peu...
Mon public, dites-vous déjà. Ah, ça y est. C'est bien.
En plus, mes collègues.
C'est bien que vous êtes dedans. Hein. C'est extra. Très bien.
Les tout premiers sont mes collègues, en plus, qui m'ont aidé. Noms, ils m'ont aidé à les faire. Enfin, les trouver. Donc, il fallait un nom qui rime avec la fonction. Enfin, Bob Tigo, par exemple. Mais ce sont mes collègues qui m'ont aidé à trouver ça. Ouais.
Et cette problématique de l'arthrite juvénile, ça concerne beaucoup d'enfants dans notre pays ou pas?
En France, il y en a à ce jour environ 3000 qui sont atteints d'arthrite juvénile. Mais c'est vrai que ça reste une maladie assez rare, mais qui est peu connue parce qu'elle est quand même présente. On ne s'en rend pas compte. Mm-hmm. On associe plus cette maladie à une maladie d'adulte, alors qu'il y a quand même des enfants aussi qui souffrent d'arthrite. Donc, inflammation au niveau des articulations.
Il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur ce terrain-là aujourd'hui ou pas?
Sur les enfants, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui travaillent dessus. Et justement, la difficulté, en fait, c'est que vu que c'est une maladie rare, c'est difficile d'inclure suffisamment d'enfants et de faire des études dessus parce que ça doit être des enfants qui n'ont pas encore de traitement pour ne pas biaiser les résultats. Donc c'est assez difficile parce que sans traitement, plus la maladie peut dégénérer, enfin dégrader rapidement avec des problèmes dans la croissance. Donc c'est difficile d'avoir des enfants qui sont naïfs de tout traitement.
Ouais. C'est votre ambition de trouver justement des pistes thérapeutiques pour aider ces enfants?
Et en fait, il commence tout doucement à y avoir des pistes thérapeutiques, mais la problématique, pour ma thèse, moi ce que je cherche, c'est savoir identifier les différentes formes d'arthrite juvénile. Parce qu'il y en a plusieurs, mais on a du mal à les identifier, à les reconnaître. Quand un enfant arrive à l'hôpital, on n'arrive pas à voir, à identifier la forme d'arthrite dont il souffre. Donc là, ce qui se passe à ce jour, c'est qu'on donne un traitement. Si ça tient, si ça marche, alors ok, ça va. Sinon, on en sait un autre. Jusqu'à ce qu'on ait un traitement qui corresponde vraiment à la maladie dont l'enfant souffre. Donc il y a ce délai avant le traitement et j'essaie de remédier, de trouver des marqueurs qui vont permettre de reconnaître et d'améliorer le diagnostic de la maladie.
Vous êtes rwandaise, Nadège Enziza. Est-ce que vous allez poursuivre vos travaux en France ou vous allez retourner au Rwanda? C'est quoi votre rêve finalement?
Mais ce que j'aimerais déjà après la thèse, c'est faire un post-doctorat, donc là aux États-Unis ou au Canada. Mais sinon, ce que j'aimerais, c'est après rentrer au Rwanda et avoir un partenariat avec des laboratoires en France. Donc j'aimerais vraiment rester entre les deux et faire le lien entre les deux.
Et on vous encourage à le faire, effectivement. Bravo en tout cas à toutes les deux.
Merci beaucoup.
On croise les doigts, vous êtes bonne chance. Il reste très peu de finalistes maintenant. On a fait connaissance avec quasiment toute l'équipe. On aura encore un duo la semaine prochaine. Et puis pour le public, pour ceux qui nous entendent et qui sont à Toulouse, vous pouvez aller sur mt180.fr pour voir s'il reste encore des places pour aller applaudir donc tous les thésards le mercredi 13 juin sur la scène du Théâtre National de Toulouse. On va se retrouver là-bas avec Sophia Aram, puisqu'on aura le plaisir avec Sophia de présenter cette soirée. D'ici là, répétez bien et surtout amusez-vous sur scène. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. On retrouve donc cette BD La guerre des fourmis sur le site, on rajoute .com derrière et on peut voir vos planches, ou alors sur theconversation.fr, Aline Richard, c'est bien ça.
Absolument.
Et puis on peut lire également Les sens du mot science chez EDP Science, que vous signez Jean-Lilensen. Tous les détails, les infos sont sur le site de La Tête au Carré. Bon week-end à toutes et à tous, merci beaucoup.